Et bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral pour cette émission Un moment pour la Terre, une émission proposée, préparée et animée par la présidente de la Fédération France Nature Environnement 04, Martine Vallon, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous êtes venue avec un invité.
Oui, c'est cela. Donc je suis venue aujourd'hui avec Michel Jacode, qui est administrateur dans notre fédération, donc France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence. Et nous sommes, alors c'est le spécialiste des questions d'urbanisme. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour vous parler des textes, des lois et des choses qui organisent le développement des villes et des villages et les projets de territoire. Alors il faut savoir qu'en tant que fédération de protection de l'environnement, nous avons un agrément qui nous permet de donner notre avis sur les projets qui sont les projets d'organisation du territoire du type de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire les SCOT, schéma de cohérence territoriale. Et donc voilà, parmi les multiples activités en lien avec l'environnement, celle-là paraît pas tout à fait évidente au départ, mais c'était extrêmement important parce que les SCOT sont les documents et les cadres qui sont mis en place pour l'organisation du territoire, pour les choix de secteurs en fonction de l'urbanisation, les choix qu'on va faire sur ce qu'on va garder pour des terres agricoles, ce qu'on va garder en secteur naturel, ou bien les secteurs où l'on va construire des logements, ou bien des zones commerciales, des zones d'activité, etc. Donc en fait, ce sont des documents extrêmement importants, dans la mesure où ensuite, tout ce qui est texte concernant l'urbanisme, tel que les plans locaux d'urbanisme vont être obligés de se conforter à ces premiers textes. Donc, Michel, tu m'interromps si je dis des bêtises, tu compléteras. Dans un premier temps, on peut dire que le SCOT, c'est ce qui va définir le projet politique pour un territoire. Donc aujourd'hui, il s'agit de documents, de textes qui sont construits à l'échelle des collectivités, donc des communautés de communes, des regroupements divers sur un secteur donné.
Juste un tout petit mot avant d'en rentrer vraiment dans les SCOT, parce que ça peut être un peu compliqué pour les uns les autres qui ne pratiquent pas tous les jours. Bon, je pense que tout le monde a une bonne idée de ce qu'ont été les postes, les plans d'occupation des sols, ou ce que sont maintenant les plans locaux d'urbanisme, PLU. Et c'est bien deux choses. Une première, c'est un dessin du territoire dans lequel on dit à tel endroit on peut construire, à tel endroit on ne peut pas construire, à tel endroit on prévoit de construire tel genre de choses, un équipement public, au contraire un équipement commercial, ou au contraire du logement, etc. Bon, c'est une première facette, disons, de ce genre de document. Il y a une deuxième facette qui est de dire, c'est ce qu'on appelle le règlement, où on dit, bon, on va construire en hauteur ou pas en hauteur, on va construire des maisons, des immeubles, etc., des choses comme ça. D'accord. Donc il y a un peu ces deux facettes. Et un SCOT, c'est dans l'idée, dans l'esprit, c'est la même idée, la même chose, quoi. Sauf que c'est fait à un niveau de territoire beaucoup plus large. Et ça, c'est très intelligent. A priori, c'est beaucoup mieux de faire ça, de commencer par regarder les choses à un niveau général, et puis après de descendre dans le cas particulier d'une commune, d'un village, d'une ville, pour essayer d'avoir un développement qui soit relativement harmonieux sur un territoire vaste. Hein, puisque c'est vrai que, par exemple, si on prend du développement commercial, il est bien évident qu'on ne va pas, dans chacun des villages de notre département, hein, qui a beaucoup, beaucoup de villages, on ne va pas développer des activités commerciales partout, ça n'a pas de sens, évidemment, quoi. C'est un exemple, juste.
Oui, je crois que c'est là où il y a effectivement cette importance que les communes diverses qui composent ce territoire se mettent d'accord sur qui va recevoir tel ou tel type de zone et comment on va organiser ça et quelle réglementation on va mettre. Donc, pour préciser un peu mieux, peut-être, ça veut dire que le SCOT va avoir trois grands niveaux d'orientation. Donc, dans un premier temps, il va falloir regarder l'ensemble du territoire et se dire, l'analyser, en fait, en termes d'espace, parce que ce qu'il est important de dire aussi, c'est que ces textes-là sont faits en relation avec certaines lois qui sont venues impacter l'organisation des territoires. Par exemple, la loi Grenelle, qui oblige à prendre en compte l'environnement, à prendre en compte certains espaces, à protéger certaines zones en fonction de leur intérêt, en fonction de ce qu'on appelle la biodiversité, ou bien du fait que ce sont des zones avec des éléments spécifiques naturels à protéger, etc. Et donc, avant de faire ce schéma, on regarde le territoire où l'on habite, le lieu où l'on est, et on fait des choix et on définit un projet qui va concerner tout le monde. Donc ça, c'est la première étape où on observe, et on regarde où on est et on choisit comment on va répartir l'urbanisation, en fait, et les différentes zones définies. Donc, à partir de là, c'est là où on rentre un peu plus dans la précision. C'est ce qu'on appelle le PADD. Donc, c'est la définition du projet de développement. Donc c'est oui, aménagement.
PADD, oui, c'est projet d'aménagement et de développement durable. On retrouve la même chose dans les PLU. Mm-hmm. Il y a aussi un PADD. C'est en gros la définition de l'ambition du projet d'ensemble de la commune dans le cas d'un PLU en général, ou bien de la communauté dans le cas d'un SCOT.
Et donc là où c'est important aussi que chacun se rende compte de l'intérêt, c'est que on le verra plus tard, l'opinion, l'avis des associations, par exemple, peut être écouté. C'est-à-dire que nous, on peut demander en tant qu'association de protection de l'environnement, on peut demander à donner notre avis sur le SCOT et à dire ce qui nous convient ou pas et pourquoi. Et ensuite, comme il y a dans la suite du déroulement, dans l'enquête publique, chacun peut être amené à donner son avis. Donc c'est important que chacun sache un peu comment ça se déroule, quels sont les enjeux et à quel moment il est possible d'intervenir et d'influer peut-être sur l'évolution des choses.
Donc oui, ça c'est important. Donc vous avez le droit d'intervenir et d'être entendu. Qui prend les décisions au final, hein?
Alors, vas-y.
Les décisions, elles sont prises par la collectivité. Mm-hmm. Dans le cas d'un PLU, c'est la commune. Dans le cas d'un SCOT, c'est la communauté. En l'occurrence, là, dans le 04, il n'y a qu'un seul SCOT. Hein, c'est le SCOT de la région de Manosque, donc qui est devenu maintenant le SCOT de DLVA, Durance-Luberon-Verdon agglomération, la nouvelle agglomération depuis 2013. Donc c'est bien cette collectivité qui prend la décision finale. Mais avant de prendre cette décision, elle reçoit des avis des uns des autres dans le cadre de l'enquête publique. Tout le monde peut participer, bien entendu. Tout citoyen, tout habitant, et même non-habitant d'ailleurs, qui a un avis sur la question. Bon. Elle reçoit des avis aussi avant de ce qu'on appelle les personnes publiques associées, c'est-à-dire la région, le département, les collectivités autour qui peuvent dire aussi ce qu'elles en pensent, parce que quand même elles sont concernées, évidemment. Les parcs
l'État
régionaux.
Aussi, enfin, L'État intervient aussi, alors plus sur l'aspect légalité du texte.
Par avis, bien sûr. Oui. L'État intervient tout à fait à la fin, mais dans le cadre général, lorsqu'une communauté ou une commune prend une délibération, de toute façon, le préfet a un droit de vérifier, enfin pas un droit, un devoir de vérifier la légalité de la délibération. Mmh. Donc c'est à ce titre-là qu'effectivement, à la fin des fins, bon, il faut bien qu'il y ait un tampon de la préfecture. Mais ça, disons que c'est plutôt de l'ordre formel en quelque sorte, quoi, hein. S'il n'y a pas de choses visiblement illégales, ben, c'est évidemment la commune et la communauté. Puis c'est normal, c'est, dans le cadre des décentralisations, c'est logique, quoi. Voilà. Donc un certain nombre d'intervenants peuvent justement intervenir, donner leur avis. Et nous, on peut être consultés en tant qu'organisation agréée, enfin, au titre du Code de l'environnement. Alors là, en l'occurrence, sur le SCOT de Manosque, peut-être, bon, on s'en est pas privé. On est intervenu un petit peu tard, mais... malheureusement, mais bon, donc on a essayé de discuter, de travailler avec les porteurs du projet. On a été d'ailleurs entendu sur un assez grand nombre de points, un peu de détails, mais parce qu'il faut bien comprendre que dans un SCOT, c'est un peu comme un PLU, encore une fois, hein, il y a en gros deux grandes parties. Il y a une partie qui est de l'ordre des généralités sur lesquelles assez souvent tout le monde tombe d'accord. Hein. On va construire plutôt comme ci, plutôt comme ça. Là, par exemple, ce qui se fait massivement, enfin ce qui intervient massivement maintenant, c'est on va essayer de densifier un petit peu la construction. Au lieu de construire de façon éparpillée et de consommer, on dit consommer, c'est peut-être pas un très bon mot, mais de consommer de la terre agricole ou de la terre naturelle, mais surtout de la terre agricole assez souvent. Hein. Bon, on va essayer de construire plus serré, donc ça a moins d'impact, quoi. Bon, des choses comme ça. Bon, en gros, il n'y a pas tellement de problèmes, sauf que souvent, ce n'est pas très bien écrit, etc., etc. Donc nous, on est intervenus là-dessus, avec Martine d'ailleurs, tous les deux, hein, pour faire un certain nombre de suggestions qui ont été largement entendues, et il n'y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Et puis il y a une deuxième chose, qu'on retrouve exactement encore une fois dans les PLU, c'est en fait les ambitions de fond, quoi. C'est-à-dire le fait que les uns ou les autres veulent se développer, on peut comprendre, enfin, il y a un certain nombre de ressorts à la fois humains, politiques, etc., qui conduisent à ça, quoi. On est dans une société où on veut toujours croître, s'accroître, etc., etc. C'est comme ça, quoi. Et donc, il faut bien, d'une certaine façon, faire avec. Mais quand on regarde l'ensemble des PLU qui sont actuellement en cours d'élaboration, c'est assez surprenant, assez sidérant de voir à quel point les gens s'imaginent tous... Prenez un village qui a 1000 habitants, gros village dans le 04, hein. Vous êtes sûr qu'à l'horizon d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il imagine de grandir de 200 habitants de plus,
hein. Et oui.
Voilà. C'est comme en France, on est 65 millions d'habitants, un peu plus, hein, 67, quoi. Si tous les postes se réalisaient, tous les postes de Français de Navarre se réaliseraient, dans 10 ans, on serait 70 millions ou 75 millions, quoi. Donc c'est quelque chose qui est à la fois irréaliste, ambitieux, pour le plaisir. Mais si ça s'arrêtait là, bon, ça ne serait pas forcément très grave. Après tout, ça ne se réalisera pas, puis c'est comme ça, ça n'a pas d'importance. Le problème, c'est que quand on fait ça, derrière, c'est le rôle d'un SCOT, c'est le rôle d'un PLU aussi, on définit des zones qui vont devenir, d'une certaine façon, depuis leur situation actuelle qui est essentiellement agricole, pour ce qui nous concerne, nous, ici, dans la région, quoi, qui vont devenir des zones urbanisées. Et ça, ça pose un vrai souci, évidemment, quoi.
On manque de terres agricoles.
Bah, je ne sais pas si on en manque, mais je crois qu'il ne faut pas les consommer au sens...
Oui, puis je crois surtout que le principal souci, c'est que lorsqu'il y a urbanisation, cela se fait les trois quarts du temps, et même 90% du temps, sur les terres les plus accessibles. Mmh. C'est-à-dire que les coûts de l'urbanisation font, donc en termes d'aménagement, de réseaux d'eau, d'assainissement, d'assainissement, de voirie, etc., font qu'on choisit les terres les plus tranquilles, les plus plates pour construire. Et donc, à partir de là, effectivement, ce sont les terres agricoles qui disparaissent. Et ça, on peut le voir, et on peut le voir beaucoup sur le sud du département, par exemple. Mais aussi sur d'autres zones peut-être un peu plus reculées, on a quand même cet aspect-là qui est relativement important.
Voilà. Donc ce qu'on voulait un peu exprimer, c'était par rapport au sol SCOT de notre département, encore une fois, dire un peu bon, quel est notre avis sur ce qui est en train de se faire. Puisque le SCOT n'est pas encore, il a été arrêté, comme on dit, mais il n'est pas approuvé. Hein. Donc c'est une espèce de phase entre les deux où il y a une discussion sur un texte qui est quasi définitif, mais pas tout à fait.
Quel est le délai pour le...
Alors, il a été arrêté au mois de juin dernier, et l'approbation, je pense que le DLVA, l'agglomération, l'imaginait pour la fin 2016, début 2017. Mm-hmm. Bon, la réalité vraie sera peut-être un tout petit peu plus tard, mais disons au printemps ou à la fin de l'hiver 2017, quoi. Donc, on vous expliquera peut-être un petit peu notre point de vue sur l'ensemble. Voilà.
Oui. D'accord. Donc, on va faire une petite pause musicale et se retrouver après pour davantage de renseignements sur les SCOT avec vous. Donc, pour cette émission, Un moment pour la Terre. On va écouter Chanson de la ville silencieuse par Dominique A. Et c'est un choix que vous avez fait pour cette émission.
D'un bout à l'autre de la chambre, les parcours sont bien dessinés. Certains autres s'y mêleraient. Qui redirait quoi? Thank you.
chanson de la ville silencieuse par Dominique A. Et vous êtes toujours sur Fréquence Mistral dans l'émission Un moment pour la Terre avec Martine Vallon, présidente de la Fédération France Nature Environnement 04, et Michel Jacotte. Et nous parlions donc des SCOT, schéma de cohérence territoriale. Et on va en savoir un peu plus avec le SCOT de Manosque.
Oui, donc juste deux mots sur le temps que nécessite la préparation d'un SCOT. En fait, aujourd'hui, il devrait y avoir des SCOT sur quasiment l'ensemble du territoire. Bon. Le SCOT demande donc une procédure assez longue, enfin du moins de plusieurs mois. On commence par le diagnostic, donc puisqu'ensuite on met en place... on définit le plan d'aménagement qui découle sur le document d'orientation, donc qui est le projet lui-même, les précisions sur ce projet. Sur ce document d'orientation, l'avis des associations est demandé ou est entendu. Ensuite, ça passe à l'enquête d'utilité publique où là, chaque citoyen peut aller poser ses observations. Puis le contrôle de légalité en préfecture et enfin on arrive à l'adoption définitive. Donc là, je vais sur le SCOT de Manosque, globalement, Michel.
Petit mot donc sur le SCOT actuel, enfin le SCOT qui est en cours de révision. Alors un petit mot d'histoire parce qu'il faut comprendre toute chose a un début et une fin peut-être, mais en tout cas un début quoi. Si Manosque a un SCOT, c'est parce que depuis très très longtemps, donc depuis la fin des années 80, je pense, hein, ça remonte, je crois, à cette époque-là, l'État s'était préoccupé du développement de cette zone-là avec le développement qu'a connu Manosque dans les années 70-80, qui était assez, assez fort, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi, avec Cadarache, etc. Ensuite, c'était une procédure assez légère. Il y a eu un premier SCOT en 2004, extrêmement léger, hein. Qui n'apportait pas grand chose. Au passage, et ça nous concerne assez directement, ça a permis par exemple la création du centre de stockage de déchets de Valensole, qui est un centre intéressant, où se passent des choses propres et correctes, quoi, je pense. Voilà typiquement le genre de choses qu'on peut définir dans le cadre d'un document de cette nature, quoi. Ensuite, évidemment, il a été mis en révision, ce qui est normal, un document de cette nature, ça évolue, c'est logique. Et donc, à partir de 2006, si je me souviens bien, mais il a fallu jusqu'en 2012 pour élaborer le SCOT qui était actuellement en vigueur. Alors, pourquoi ce temps si long ? Martine parlait de mois, en fait, c'est plutôt d'années, en l'occurrence, là, qu'il fallait parler. Ça a duré 6 ans, à peu près, 6-7 ans. Hein. En particulier parce que le paysage territorial a beaucoup évolué dans la période. Vous vous rappelez qu'il y avait des communautés de communes, dont une en particulier, la communauté de communes de Manosque, proprement dite, CCLDV à l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait, qui a grossi. Chaque année, il y avait deux communes de plus, etc. Mm-hmm. Et donc, chaque fois, il fallait remettre en chantier, pas l'ensemble, mais il fallait changer des choses, etc. Bon, bref, ce SCOT-là, c'est mal construit, son élaboration s'est mal déroulée, en grande partie à cause de ça, et le résultat a été modeste, disons, pour pas être plus méchant. Il y avait néanmoins dans ce SCOT-là une volonté, une espèce d'ambition, alors là, complètement démesurée, du moins au début, de développement démographique d'abord, économique derrière, parce qu'il faut quand même un peu lier les deux, bien sûr, hein. Bon, alors ces ambitions-là ont été revues à la baisse très très fortement, ont été divisées par deux en gros, et puis c'était une très bonne chose. À mon avis, ça aurait dû être divisé encore un peu plus, mais c'est un avis personnel. Et ensuite, ce SCOT, il a fini par être adopté, donc fin 2012, parce qu'il avait été commencé dans le cadre d'une procédure qui date d'avant les lois de Grenelle. Vous vous rappelez, le Grenelle de l'environnement, un grand événement en 2010-2011, avec beaucoup de conséquences sur le droit de l'urbanisme en particulier, quoi. Et donc, il était urgent de finir avant que la loi Grenelle doive s'appliquer et qu'il faille recommencer tout le travail qui avait déjà duré depuis 6 ans, quoi. Et donc, ça a été accepté, approuvé un peu dans la précipitation, avec des avis des personnes publiques associées dont je parlais tout à l'heure, l'État, les parcs, etc., les chambres de commerce, les chambres d'agriculture, etc., qui étaient assez, pas identiques, hein, chacun défend un peu sa paroisse, c'est normal, mais qui étaient assez négatifs globalement, quoi. Bon. Voilà, mais il fallait avancer, donc ça a été fait comme ça. Et en fait, dès 2014, donc un an après, le SCOT a été mis en révision, avril 2014, si je me souviens bien. Alors, sous deux prétextes, j'allais dire. Prétexte, le mot est un peu méchant. Deux raisons. Une, parce que le territoire avait encore un peu bougé. On avait annexé, en quelque sorte, Riez et Romoul, deux communes donc à l'est du territoire. Et puis, parce que il fallait bien se conformer quand même, finir par se conformer, justement, aux lois Grenelle. Plus toutes les lois qui sont arrivées depuis, la loi Allure, etc. etc. Bon, voilà, donc un peu les raisons un peu officielles. Bon, puis après, il y avait le besoin de se caler un peu mieux sur les avis des uns des autres, et c'était une bonne chose. Entre-temps, l'agglomération avait avancé sur une réflexion sur l'habitat, avec un PLH, un programme local de l'habitat, qui a été une réflexion assez bien menée, mais sur les hypothèses du SCOT précédent, qui, encore une fois, était un peu forte, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, elle a travaillé aussi sur le développement économique, etc. Bon, toutes choses intéressantes en soi. Et donc, le nouveau SCOT est venu en chantier et a été arrêté donc, au mois de juin dernier. Alors, sur ce nouveau SCOT, bon, deux grandes remarques a priori. Si on vous posait la question comme ça, bon, quand on réfléchit à non pas une planification, non pas une programmation, mais disons un espèce de schéma d'avenir, etc., à quel horizon pensez-vous raisonnable de réfléchir ? Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable de réfléchir à l'horizon de 5-6 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, 50 ans ouais. Bon. Le choix qui a été fait, c'est de raisonner à une échéance qui est très lointaine, 2035.
C'est 18 ans, c'est ça ?
Ça fait 18 ans.
Ouais.
Alors, sauf que les 18 ans, c'est en théorie. Parce que dans la réalité vraie, quand on réfléchit à l'existant, pour se projeter dans le futur... on se base sur les dernières données qui sont disponibles, et les données sont toujours en retard, et c'est normal, on ne peut pas faire autrement. Donc en fait, l'essentiel du raisonnement est basé sur des données qui datent au maximum de 2012. Donc en fait, ça fait bien plus de 18 ans. Donc voilà, c'est un exercice que, bon, dans l'absolu, pourquoi pas raisonner très loin, à condition d'avoir des éléments à peu près fiables, déjà, et puis de se caler au minimum sur les évolutions un peu récentes, quoi. Et alors le deuxième point, justement, c'est un peu celui-là, c'est, vous vous souvenez que le département en général, mais surtout sa partie sud, a connu un développement extrêmement fort, extrêmement important, en gros, dans le début des années 2000 jusqu'à la crise, quoi, pour simplifier. Hein. Je ne sais pas si c'est à la faute de la crise ou la faute à qui, ou etc., mais en tout cas, à partir de 2008-2009, dans ces eaux-là, les choses ont complètement changé. Alors, ce n'est pas vrai uniquement pour notre département, c'est vrai pour l'ensemble de la région. La région, vous rappelez peut-être, il y a quelques années, bon, c'était le grand développement, une croissance, on ne savait pas quand ça allait s'arrêter, etc. Puis tout d'un coup, ça s'est arrêté. Mais partout, sauf dans les Hautes-Alpes, où ça continue encore un peu. Dans les Alpes-Maritimes, il y a même une décroissance. Dans les Bouches-du-Rhône, il y a une faible croissance, dans le Var, un petit peu. Puis chez nous, il y a une croissance... beaucoup plus ralenti, okay. Très ralenti, hein, en gros, divisé par deux par rapport à la période précédente. Quoi. Et ça, le SCOT ne l'a pas du tout pris en compte. Donc on est resté sur une espèce de philosophie de croissance extrêmement forte qui objectivement ne correspond pas à la réalité actuelle. Peut-être que ça correspondra à la réalité future, personne ne sait. Hein. Bien sûr. Mais quand on se projette à un horizon qui est en gros une vingtaine d'années et qu'on se base sur des données dont on sait a priori qu'elles sont décalées par rapport à la réalité actuelle, on fait un pari qui est quand même assez, assez dangereux. Alors pourquoi dangereux ? Parce que bon, si on se trompe, on se trompe. Encore une fois, les choses ne sont pas toujours graves. Hein. C'est dangereux parce que si on faisait dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passerait ? C'est-à-dire si on projetait moins que ce qui finalement arrive, ben, on découvrirait assez vite ben, qu'on est un peu serré, quelque part, qu'il n'y a pas assez de place. Hein. Et donc, on mettrait en révision tranquillement le SCOT. Et puis, on se donnerait un peu de respiration, on ouvrirait un peu plus. La réalité est comme ça, mais il faut bien faire avec. Hein. Bon, dans le cas contraire, c'est-à-dire quand on se projette vers quelque chose de très très large, on commence par déclarer qu'on a un besoin en terre à urbaniser, c'est-à-dire en terres agricoles pour l'essentiel, parce qu'encore une fois, l'urbanisation elle se fait surtout dans le Val de Durance, hein. Pas seulement, mais surtout dans le Val de Durance, c'est-à-dire les meilleures terres en fait, du département. Quoi. Bon. on commence par changer la nature de ces terres-là, c'est-à-dire qu'elles deviennent potentiellement constructibles, avec tous les effets que ça induit en termes d'appétit de la part d'un certain nombre de propriétaires, y compris agriculteurs d'ailleurs, de transformer leur bien en un patrimoine. Hein. Bon.
Ou même, parce que en fait, les agriculteurs ne sont pas toujours propriétaires de leurs terres, globalement. Enfin, c'est-à-dire que aussi avec le développement de l'agriculture mécanisée, etc. On sait qu'aujourd'hui, un agriculteur, il peut être propriétaire de 40 ou 50% de ses terres, mais pas de la totalité. Donc ça veut dire aussi que là, il a encore moins de maîtrise sur l'évolution, et qu'effectivement, lorsqu'il y a un projet qui zone en terre urbanisable un secteur qui est actuellement agricole, bon, le propriétaire peut aussi avoir envie de récupérer son bien pour l'utiliser autrement que pour de l'agriculture.
Mmh. Alors, peut-être deux, trois indications chiffrées pour que ça parle un petit peu mieux à tout le monde, quoi. Bon, ce que projette le SCOT, finalement, c'est une croissance de un peu moins de 1000 habitants par an supplémentaires. En gros, la communauté d'agglomération fait un peu plus de 63 000 habitants, disons, on va dire, hein, pour prendre un chiffre rond. Bon, et vous rajoutez 900, 950 habitants supplémentaires par an. Bon, si on se basait sur les évolutions les plus récentes connues, ça ne serait pas ça, ça serait un peu plus de la moitié, ce serait de l'ordre de 400 et quelques habitants par an, quoi. Ou 500 et quelques, 550 habitants par an, quoi. Alors, quand on parle d'habitants, c'est finalement, ça a l'air d'être très concret. Dans la réalité, c'est très abstrait parce que, bon, en termes de sol, les habitants, le sol, c'est médiatisé par quelque chose qui est le logement. Mmh. En fait, il faut finalement plutôt parler de logement que d'habitants. Les habitants, bon, à la limite, c'est très important, on est bien d'accord. Mais dans la réalité pratique, c'est pas comme ça que ça se produit. Bon, en termes de logement, au lieu de faire 650 logements par an à peu près, bon, 400 et quelques suffiraient très vraisemblablement, 400 logements supplémentaires. Alors, maintenant, si on en vient à la consommation de terres agricoles, bon, une bonne idée du SCOT, et qui est très bonne, hein, qui a été reprise du programme local de l'habitat d'avant, c'est de dire, bon, il faut fortement densifier, il faut essayer de construire à l'intérieur des zones déjà urbaines. Récupérer du terrain qui est un peu vide, reconstruire là où c'est tellement peu dense que, bon, peut-être faire un peu mieux, etc. Bon, sans pour autant dégrader le cadre de vie des habitants, quoi. Donc ça se traduit en termes de surface par un besoin qui est, bon, assez fortement surévalué là aussi, hein, de 440, je crois, hectares, alors qu'on pourrait faire beaucoup moins, quoi. Hein.
Voilà. Ça veut dire quoi ? Il faudrait faire plus d'immeubles ?
Non, ça veut dire que, premièrement, il faudrait commencer par se dire qu'on n'a pas forcément besoin de penser à accueillir. Je ne dis pas d'accueillir. Il faut toujours accueillir les gens quand ils arrivent. Il n'y a pas de mystère. Mais de penser à accueillir autant de gens, et donc de penser à rendre constructibles autant de zones dans lesquelles on peut construire effectivement un peu plus d'immeubles ou un peu plus d'individuels un peu plus serrés, disons, que ce qui a été fait dans le passé. Mais sur ce plan-là, le SCOT est plutôt bien. Encore une fois, il y a du bien et il y a du moins bien. C'est pas un avis, bien sûr, complètement négatif. Il y a des choses pas mal sur la prise en compte de la biodiversité. C'est mieux fait que dans le SCOT précédent. Bon, il n'y a pas de discussion là-dessus. Alors, à ceci vient s'ajouter encore une autre chose, plusieurs autres choses. Une première, c'est raisonner à un horizon lointain, encore une fois, c'est pas stupide du tout, c'est même intelligent. Hein. Le problème, c'est que si on se donne pas de phasage, c'est-à-dire si on dit pas, bon, en gros, d'ici à, mettons, 2025, on va faire plutôt telle chose, et puis au-delà de 2025, entre 2025 et 2035, on fera telle autre chose, quoi. Bon, ça donnerait, enfin, si on se donnait un phasage comme ça, ça veut dire que, par exemple, pour reprendre l'exemple des terres agricoles de tout à l'heure, les terres agricoles dont on a besoin, on dirait, ben, il y en a une partie dans les 10 années qui viennent, et puis une autre partie dans les 10 années qui suivront. Hein. Bon, et donc ça ne mettrait pas de pression sur la deuxième partie. Et entre-temps, on aurait le temps de réajuster par rapport à ce qui s'est passé, à la réalité, quoi, aux besoins réels, tels qu'on peut le percevoir, quoi. Et puis il y a une deuxième chose qui est, par cet à côté, un peu de même nature. Il y a une différence entre le SCOT 2012 et le SCOT actuel. Le SCOT 2012 avait projeté, disons, des situations pour chacune des communes. C'est-à-dire qu'on disait, dans la commune temps, ben, on va réserver en gros, tant d'hectares, etc. C'était des ordres de grandeur, hein, c'était pas précis à la décimale, hein, bien entendu, hein, mais c'était des ordres de grandeur, quoi. Dans le cadre de ce SCOT-ci, c'est pas une mauvaise idée, encore une fois, sur le plan théorique, c'est même assez astucieux. On raisonne avec ce qu'on appelle l'armature urbaine, c'est-à-dire, en gros, on dit il y a une grosse ville, Manosque, tout le monde est d'accord, bien sûr, et puis il y a des villes relais autour, hein, Saint-Tulle, Vinon, etc., enfin, 4-5 villes, et puis il y a des villes d'importance un peu moindre, et puis il y a des villages, pour simplifier, quoi. Hein. Donc il y a un découpage en 4, quoi. Et puis on dit simplement, sur chacune des 4 quatre groupes, ça sera tant ou tant d'hectares, etc. Quoi. Bon. Ça laisse la possibilité à des communes, alors on va les appeler agiles, hein, ou ambitieuses, bon, dans tous les sens du terme, hein, à la fois positif et négatif, de se dire, bon, après tout, moi je suis dans la case numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, j'ai droit, entre guillemets, dans ce cadre-là, à tant de développement, et comme je suis agile et puis que j'ai vraiment de l'ambition, hein, eh ben je fais tout de suite, je consomme tout de suite, entre guillemets, c'est-à-dire j'inscris dans mon PLU tout de suite le maximum de ce qui est possible. Alors, ceci n'était pas possible dans le passé, ce l'est d'autant plus maintenant que le SCOT a pris un pouvoir, en quelque sorte, sur les PLU qui est bien plus important qu'avant. On parle de SCOT intégrateur, c'est-à-dire qu'en fait, le SCOT devient...
Le
document principal est le réceptacle de tous les documents ou tous les textes qui sont de niveau supérieur. Et dès lors que le SCOT, en gros, est respecté, c'est-à-dire on ne fait pas des choses contraires au SCOT, les PLU qui sont en dessous ne sont plus visés par les différentes commissions qui ont été créées depuis 5-10 ans, à peu près 5 ans en gros, qui permettent de contrôler, de donner des avis un peu organisés de la part de l'ensemble des parties prenantes sur un sujet. Je prends l'exemple, encore une fois, de la consommation de terres agricoles. Il y avait une commission dite commission départementale de consommation des espaces agricoles, qui s'est transformée en commission, bon, le nom est un peu plus long, CDPNAF, protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Peu importe le changement, c'est pas une différence très, très, très importante finalement, quoi. Bon. Cette commission, elle rend un avis actuellement sur chacun des PLU. Et elle regarde, elle analyse, et assez souvent, elle dit, bon, bah, écoutez, c'est tout ça, c'est un peu ambitieux, mais enfin bon, mais si vous dites que, bon, dans les 3 prochaines années, vous allez faire ci, ou dans les 5 prochaines années, vous allez faire ça, et puis dans les années suivantes, en fonction des besoins, vous ferez plus, hein, bon, finalement, on aboutit à quelque chose d'assez raisonnable, quoi. Dans le cadre d'un SCOT comme celui de Manos qui va être installé, là, à partir du moment où le SCOT sera approuvé et officialisé, les PLU de toutes les communes qui sont en dessous ne passeront plus en commission départementale. Il n'y aura plus aucun contrôle.
Mmh. C'est-à-dire
qu'il y a
un
risque qui est assez fort, hein, à ce niveau-là.
Oui, l'avis a été donné, l'avis est donné sur l'ensemble du SCOT, donc de façon très globale finalement. Et du coup, dans les détails, dans le pointu et au moment où peut-être il peut y avoir encore quelques garde-fous, ça disparaît. Et effectivement, bon, on le voit bien d'ailleurs, sur la zone de Manosque, il y a une pression très forte sur les zones agricoles et certaines qui ont été définies comme étant urbanisables dans le SCOT ou bien comme futures zones d'activité, etc., qui sont vraiment parmi les terres les meilleures du secteur. Voilà. Et ça pose un réel problème pour l'avenir. De l'agriculture locale, bien évidemment.
Donc un danger d'approuver un SCOT pour 18 ans, sans révision possible.
Si, si, toute révision est toujours possible.
Oui.
Et il y a une obligation d'évaluation au bout de 6 ans. Mais bon, problème d'évaluation, par exemple, on aurait pu penser que le SCOT qui est en cours soit basé sur une évaluation du SCOT précédent. Mm-hmm. Ça n'a pas été fait du tout. Hein. Il n'y a eu aucune évaluation des effets effectif, la réaliser, de ce SCOT de 2012. Quoi. On peut peut-être parler de 3-4 petits sujets très rapidement qui sont un peu de nature différente avant de
rendre l'antenne. Oui.
Bon, un petit mot sur les ressources en eau. Les ressources en eau, c'est une vraie difficulté dans la région en général, dans le département en particulier, et sur la région de Manosque également. Bon, le SCOT n'en parle pas vraiment, hein, il y a juste une petite recommandation quelque mm-hmm. part. C'est pas très 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 sérieux, je trouve. Il y a une deuxième question assez forte, donc c'est des questions très très variées, très diverses. Hein. Mm-hmm. Deuxième question, c'est la question des déchets. Vous savez qu'on est dans une situation très mauvaise en PACA, en général. Dans la zone de Manosque, on n'est pas du tout dans une situation bonne. Il y a aucune indication dans le SCOT sur ce qui pourrait être fait en matière de déchets. D'autres SCOT voisins, par exemple Provence Verte, c'est autour de Brignoles, Saint-Maximin, etc. C'est pas loin, c'est des voisins, hein, tout près. Bon, ils ont mis en place, dans le cadre de leur SCOT, des obligations vis-à-vis des communes. Par exemple, des choses du genre, toute construction collective doit être organisée de manière à ce qu'on puisse organiser de la gestion, de la collecte plutôt sélective, ce qu'on appelle les biodéchets.
Oui.
Les déchets mm-hmm. qu'on ne composte pas parce qu'on habite en immeuble, c'est pas très pratique. Mais bon, tant qu'à faire. Bon, voilà, donc ça c'est un manque assez clair. En matière d'énergie renouvelable, on aurait pu penser, parce qu'il y a du photovoltaïque un peu partout dans notre beau département, bon, on aurait pu penser que le SCOT soit un peu précis. En l'occurrence, il est totalement imprécis, il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut parler aussi de sites commerciaux. Manosque déborde de sites commerciaux, oui. C'est clair. Le centre-ville ne va pas bien, c'est clair aussi. Ça fait longtemps, mais ça ne s'arrange pas. Sur ce plan-là, le SCOT prévoit encore d'augmenter les zones commerciales. Bon, d'une manière qui n'est pas claire, en plus, au sens où tout ce qui est indiqué dans le SCOT, c'est en gros un petit dessin, mais format timbre-poste, quoi. Donc on n'y voit rien du tout. Et on ne sait pas vraiment quelles sont les limites de l'exercice. Bon, un dernier point, peut-être juste sur le tourisme. Là aussi, il y a une ambiguïté assez forte dans le SCOT. On sait qu'il y a un projet sur Puy-Michel qui va vraisemblablement se faire un jour. Bon, les choses ne sont pas bien précisées, pas bien claires, etc. Mais ça va s'arranger, je pense. Et le projet n'est pas mauvais en soi, je crois. Hein. Bon, il y a d'autres projets qui nous menacent, entre guillemets, un sur Riez et puis un sur Montfuron depuis
oui.
longtemps. Ces projets-là, dans le SCOT, devraient être normalement précisés. En l'occurrence, il y a une vague phrase qui dit qu'ils sont éventuels dans le cadre de ce qu'on appelle le projet d'aménagement de développement durable, donc le document d'ensemble. Et puis dans le document prescriptif, qui est beaucoup plus précis, on n'en parle plus du tout. Donc on ne sait pas très bien si c'est oui, si c'est non, si c'est un peu, si c'est peut-être. Voilà. Donc il y a des choses qui sont, de ce côté-là, assez négatives. Mais encore une fois, il y a aussi des bonnes choses dans ce SCOT, bien entendu.
Alors c'est quoi les bonnes choses ?
Voilà, justement, des prescriptions assez précises sur la façon de construire de nouvelles extensions d'habitations. Qui sont sensiblement mieux rédigés qu'avant. Une meilleure distinction entre ce qui est prescriptif, c'est-à-dire qui s'impose vraiment, et ce qui est simplement de l'ordre de la recommandation. Si vous pouvez faire, vous pouvez faire, etc. Bon, un exemple là-dessus, qui n'est pas satisfaisant, c'est sur l'eau, par exemple. Mm-hmm. La ressource en eau, il aurait dû y avoir des prescriptions fortes et un projet d'aménagement clair. Il y a juste une recommandation qui est du genre, si vous êtes une commune, ça serait bien que vous fassiez, enfin, vous pouvez faire un schéma directeur de l'eau. Il n'y a pas besoin de l'écrire dans le SCOT, ça ne sert à rien. Enfin, les communes qui sont confrontées au problème le font.
On va devoir se quitter.
Oui, est-ce qu'il y a... très juste. Alors, peut-être juste sur notre agenda, la soirée projection débat mercredi 23 novembre autour du film Trashed à 18h qui se fera à Salle Perchaud, avenue des Termes à Digne. Donc voilà, c'est un film qui est proposé dans le cadre de la semaine de réduction des déchets. Donc c'est, je dirais, ce qu'on a de principal dans les jours à venir, et sinon vous pouvez aller voir sur notre site l'agenda où tout est précisé.
D'accord, merci.
Ouais. Et merci à vous.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.